Bonsoir à tous et bienvenue à ce 25e épisode de la saison 2 du podcast À la coupe qui vous est propulsé par la microbrasserie Le Caveau des Trois Pistoles pour votre bière hockey. N'oubliez pas de penser à la bière, la Montminou à la coupe. Je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur nos différentes plateformes puisqu'on est présent entre autres sur Facebook où vous êtes en ce moment, mais sinon sur YouTube, sur Spotify, sur Instagram, sur Twitter et sur TikTok également, toujours au nom de À la coupe. Sinon, vous pouvez aussi nous suivre avec nos différents shows puisqu'on a à tous les mardis midi la notif des sportifs animée par Loric Salva. Il fait un tour de l'actualité au niveau du hockey. On a également le coin des rumeurs à tous les vendredis. Et puis sinon, on a des petits shows sporadiques aussi, comme exemple les 5 minutes d'inconduite ou le bureau du coach. Aujourd'hui, on a un show qui va être chargé au niveau des séries éliminatoires. On va toucher entre autres à la LNH ainsi que la LHGMQ. On va commencer avec ce qui se passe au niveau de la LNH. Et pour ce faire, on va introduire notre collaborateur d'aujourd'hui, Sam, gérant d'Estrade. Comment ça va?
Salut, ça va toi?
Oui, ça va très bien. Alors Sam, je le sais bien, nos équipes ne sont pas en série, mais est-ce qu'il y a une série que tu suis plus que d'autres en ce moment?
Plus que d'autres? Oui, c'est sûr que les Kings contre les Oilers, c'est la série que c'est l'équipe que je veux qui gagne le plus, c'est les Kings. Okay. C'est elle que je suis le plus, mais mettons que je te dirais que j'y suis pas mal tout égal pareil. Là. Ça finit que... Vu que c'est tard, les Oilers, je peux quand même la checker presque au complet sans regarder ailleurs, mais les séries à 7h, il y a tout le temps une game à 7h30, fait que tout le temps chevaucher les séries de la NBA au travers, fait que il y a plus de... Entre 7 et 9, il y a plus de condensation que le soir vers 10h, mettons.
OK, hey, écoute, j'ai essayé de regarder un match de la NBA, c'était les Suns contre...
ils jouaient contre... Les Clippers.
Ouais, ils ont éliminé les Clippers. Ouais. Puis c'est quand même serré en fin de match, honnêtement. Ça, j'ai été assez surpris, mais tu sais, je chevauchais entre trop de télé. C'était.
Ouais.
J'ai décidé d'abandonner. Finalement, je ne regarderai pas d'NBA pour tout de suite. All right. Ben, écoute, on va se commencer dans ce cas-là avec la série qui oppose les Kings avec les Oilers, puisque c'est une série qui a été peut-être un petit peu plus à l'aise. On a eu le dernier match, les Oilers d'Edmonton ont remporté quand même un match à haut pointage, 6-3.
Ouais.
On a retiré Korpisalo, puis on a mis. Couplé. Tu le files comment, ça?
Je trouvais ça correct. Je veux dire, Korpisalo n'a pas vraiment de choses à se reprocher sur les buts qui ont été faits, sauf que l'entraîneur, ce qu'il voulait faire, c'est un changement de momentum. C'était plus pour donner un électrochoc à son équipe que blâmer le gardien. Puis, on a vu en même temps, il y en a plein qui disaient « Ah, Couplé, il aurait peut-être mieux fait, mais Korpisalo n'a rien à se reprocher dans la série. » Puis on a vu que Copley était pas de calibre à gauler dans les séries. Là. Il était perdu. Je sais qu'il a fait longtemps qu'il n'a pas gardé les buts, mais ça marchait pas. Là. Puis ça n'a pas été un bon. Ben, je pense pas que ça. Korpisalo était resté devant le net. Je pense pas que les Kings gagnaient ce match-là. Mais je pense qu'on a compris que ça va être Korpisalo à la vie à la mort pour les Kings, à moins d'une blessure. Là. Mais je pense que c'était plus pour booster son équipe et faire un mini temps d'arrêt quand tu changes de gardien et tout. Mais. Je vois pas. Je pense que c'est entre la première et la deuxième, je pense, qui est arrivé en plus. Je sais même pas si c'était pendant le jeu qu'il a été changé.
Il n'a pas été changé pendant le jeu parce que moi, je m'en étais pas rendu compte. J'étais en live sur TikTok puis c'est quelqu'un qui m'a dit que c'est du changement. Puis je savais même pas qu'il avait été changé.
Je crois que c'était entre la première et la deuxième, oui.
En début de période qu'il était arrivé comme gardien. Puis tu sais, tant ou si longtemps qu'on va avoir des matchs à haut pointage, ça sera pas vraiment en faveur des Kings là, parce que les Oilers, c'est une équipe qui est dure à arrêter à ce niveau-là.
Non, c'est sûr.
Disons que le style de jeu défensif des Kings devrait être un petit peu plus serré, mettons.
C'est sûr que tu peux pas battre les Oilers 7-6 parce que c'est eux qui ont la force pour le faire. Mais je pense que c'est... Les Kings ont mal joué pendant à peu près 5 périodes dans cette série-là. Puis ça, moi, je leur ai dit que ça leur coûtait la série. Je pense que la série s'est perdue quand ils menaient 3-0 et 4-3 avec 5 minutes à faire en troisième. Ils ont donné le but égalisateur et le but gagnant en prolongation. Quand tu mènes 3-0 en série, tu peux pas échapper le match. Surtout pas contre les Oilers. Tu prenais les devants 3-1 dans la série, tu les mettais au pied du mur, la pression. Et là, la pression, ben moi, je savais que les Oilers allaient sortir fort à domicile. Moi, dans ma tête, cette série-là est terminée. J'y crois à plus zéro que les Kings vont revenir. Je pense que ça fait vraiment, vraiment mal dans la confiance aux joueurs et tout de perdre ce match-là à domicile en plus. J'espère que ça va se rendre en 7 et tout, mais j'ai aucune confiance. Je crois que ce match-là va rester dans la tête des joueurs et tout. Puis ça a fait très mal.
Ça va être une grosse épine dans le pied. J'aimerais ça t'entendre aussi, parce que moi, je t'avoue que j'ai bien aimé la petite complicité qui existait entre Vilardi et Byfield. Deux joueurs d'avenir qu'on a du côté des Kings de Los Angeles. C'est-tu des gars qui vont être des gars d'impact pour l'avenir?
Byfield, peut-être, mais Vilardi, je pense qu'on le voit déjà. Vilardi, qui est un des meilleurs joueurs présentement des Kings. C'est un gros bonhomme, c'est un buteur, premièrement. Il est gros, il est fort, il a un méchant bon lancé. Mais on a vu qu'il est capable de faire des belles passes aussi, parce qu'il y a 2-3 buts dans la série, c'est lui qui a fait le jeu pour faire une passe. Je pense qu'Avila Hardy peut être un bon joueur de deuxième trio qui peut marquer 25-30 buts. Puis Byfield, ben lui, je pense que son coach n'a pas aimé son dernier match parce qu'il a mis sa quatrième ligne dans la gang. Ah. Mais il n'y a pas grand monde qui a joué un bon match côté des Kings si on regarde ça. Ils ont mis Sean Walker aussi comme défenseur à la place de Edler, je crois. Puis quand t'as pas joué depuis genre 2 semaines, tu arrives contre McDavid Rizaitl.
C'est tough comme
retour. Peut-être pas la meilleure idée, surtout avec le dernier changement. La game est à Edmonton.
Ouais.
Fait que il y a beaucoup d'affaires des Kings, mais l'avenir est quand même bon à Los Angeles. Là. On a beaucoup de jeunes joueurs. Puis les vétérans sont pas. Tu sais, c'est pas de last dance, c'est pas terminé pour les Kings. Là. Je sais qu'ils vont pas perdre Gavrikov et Korpisalo, à moins qu'ils décident de signer, mais c'est pas un do it now où c'est fini. Je pense que les Kings ont encore du gaz, mais c'est sûr que les Oilers en première ronde, je pense que c'était l'équipe dans l'Ouest qu'il fallait pas pogner, parce qu'ils ont quand même une bonne équipe, malgré que je les aime pas du tout. Ils ont une bonne équipe, puis Dreisaitl, McDavid, ils sont rendus ensemble, là, en plus. Fait que, souvent, ils jouent ensemble, fait que on dirait que c'est plus dur les contrôler, mais en tout cas, c'est vraiment dur les mettre. Puis on a vu dans la game, là, McDavid, je pense qu'ils ont eu 2-3 points chaque, Dreisaitl aussi. Fait que si McDavid a pris de la confiance au dernier match, ça va être dur.
Ça va faire mal à long terme, mettons. Est-ce que ça se peut que Vilardi était blessé un bout de temps d'abord? Parce que moi, je l'avais
pas. Oui, il a manqué le premier match. Les deux premiers matchs, le premier match, Vilardi, puis Fiala a manqué. Fiala est revenu la game qui menait 3-0. Justement, c'était le retour de Fiala. 3-0 après une période. Tout le monde était « wow, les Kings ».
Puis on l'échappe.
Ça a baissé. Mais je pense que les Kings ont quand même une très, très bonne équipe. Leurs 3 lignes d'attaque sont bonnes, mais je pense que le match-up qu'il fallait pas qu'il aille, c'était avec
Edmonton.
Avec Edmonton. Je pense qu'il aurait sorti n'importe qui d'autre dans l'Ouest, mais peut-être pas les Oilers. Mais c'est pas fini.
Il n'y a absolument rien de fini tant aussi longtemps que la série n'est pas à 4. Fait que, bref. Écoute, ça va me permettre de t'amener à ce moment-là du côté de l'Est. Il y a une organisation aussi qui a échappé une belle avance. Et cette fois-ci, on va aller Toronto contre le Lightning qui joue actuellement. Dernière nouvelle, moi, c'était 1-1. Je ne sais pas si c'est encore.
J'ai pas ça devant moi. J'ai le repêchage de NFL dans mon background. Fait que c'était 1-1, effectivement.
Sinon, belle remontée, puisque les Leafs, ils perdaient 4-1, puis ils ont réussi à remonter ça 5-4 en prolongation. Pour toi, est-ce que c'est le même principe? Est-ce qu'on vient de perdre la série là, du côté de Tampa?
Vu que c'est les Leafs, je dirais non, parce qu'on ne sait jamais. Mais moi, j'ai fait un take avant le match que les Leafs gagnaient ce soir et qui devenaient la première équipe, qui l'eût cru, la première équipe à se qualifier pour la deuxième ronde. C'est quand même incroyable qu'il n'y ait aucune série terminée après presque 10 jours, je pense que c'est le 10e jour des séries, aucune série terminée. Je l'avais dit lors du podcast la semaine passée que c'est ça que je voulais, des matchs en 5, 6, 7, et là on a des matchs beaucoup en... Là, 5, je pense que c'est le dernier, là, les Leafs. Il y a les Rangers, mais eux autres, ils vont se rendre en 6, c'est sûr, c'est 2-2. Mais... oui, je pense que ça a fait mal au Lightning. Puis le Lightning, est-ce qu'ils ont l'équipe pour gagner 3 victoires de suite quand même, dont 2 à l'extérieur? Je pense que le Lightning, on l'a vu, on le dit depuis longtemps, sont fatigués.
Ouais.
C'est des blessures. Aussi, quand tu es fatigué, les blessures arrivent plus facilement que quand tu es jeune, tu es en forme et tout. Puis je pense que les Leafs, c'est exactement ça. Oui, il y a des O'Reilly et tout, mais des Marner, des Matthews qui n'ont jamais fait une grosse run en série, eux autres sont en forme. Puis... sérieusement, le 4-1 de la dernière game, je pense que ça a fait mal. Mais Vasilevski, ce soir, a l'air d'être en grande forme.
Ouais, tout à fait, je l'ai
puis,
vu.
Puis, je me demande si les commentaires de son ancien assistant coach ne l'a pas fouetté.
Oh.
Puis, s'il y a un gars qui peut gagner une série à lui seul, c'est Vasilevski.
Ouais,
s'il y en a un qui peut le faire, lui. Mais par contre, il y a juste une période de jouer. Les Leafs ont des bonnes chances. Puis, je pense qu'ils ont trouvé la faiblesse des tirs de loin et tout. Là. Ça a l'air de... Puis encore à soir, c'est un tir de Morgan Riley qui est en feu, là, on va se le dire. Mais je pense que ça se termine ce soir. J'espère. Je l'espère vraiment.
Moi, j'avais vu beaucoup de tirs déviés devant Vasilevski.
Oui, il y en a eu beaucoup.
Fait que d'après moi, ils ont trouvé sa corde sensible. Puis bon, il va avec ça. Mais en même temps, quel gardien ne serait pas sensible à...
Il n'y a aucun joueur, aucun gardien de but qui dit « ma force, c'est les tirs déviés ».
Non, c'est ça.
Ça n'existe pas.
Moi, je me fonds là-dessus, les redirections. All right. Puis c'est une série que moi aussi, je pense que ça s'est joué avec la remontée 4-1. Là. D'après moi, c'est moralement parlant, c'est quelque chose qui va hype les Leafs.
J'ai vu une stat tantôt. Je pense que le Lightning a mené 50% du temps de la série, puis ils perdent 3-1. Puis dans le match numéro... C'est le match numéro 3, je pense aussi, qu'ils menaient. Puis qu'ils n'étaient pas par 3 buts, mais je pense qu'ils menaient par 1. Puis ils ont perdu pareil. Même la première game, ils ont gagné 7-3, c'est 3-0, c'est venu 3-2.
Ils ont échappé des avances à chaque fois.
Ouais, mais malheureusement, l'avance des Leafs ce soir a duré quelques secondes. Ouais. Parce que je sentais vraiment que la foule était dedans. Puis ça a vraiment brisé de quoi, là. Parce que tout le monde était survolté, puis ça a duré. Après ça, tu te fais marquer. La foule est comme. Mais là, ils sont revenus après, mais ça reste que.
Pour clore là, vite, là, cette série-là, moi, ce que je te dirais, c'est que j'ai l'impression qu'ils ont beaucoup de pression, d'autant plus qu'ils sont à Toronto. Donc, c'est une organisation qui passe la première ronde. Mais peut-être que s'ils échappent ce match-là, ils vont aller le chercher par après à Tampa. Puis ça, c'est un feeling que moi, j'ai.
Ouais, mais moi, je pense que s'ils perdent ce soir, je pense pas que ça va jouer dans la tête des gars. Là, je veux dire, c'est ils jouent bien présent. Tu sais, c'est pas comme s'ils perdraient 6-0. Ah, mais là, c'est 1-1, il n'y a rien de fait.
Et voilà. Okay. Là, on va rester en Floride et on va y aller avec Boston contre les Panthers de la Floride. Le dernier match est une défaite de 4-3 en prolongation. Moi, je veux quand même t'attirer sur le fait que Boston a tiré 47 fois face à un gardien que tu connais bien et qu'on ne s'attendait peut-être pas à voir.
Il a gaulé le dernier match, on va se le dire. Il était de retour, puis je pense que c'était la bonne décision. Alex Lyon les a amenés en série, ils ont donné sa chance, mais il a donné trop de mauvais buts dans cette série-là pour qu'il puisse continuer. Puis hier, justement, je suis content que t'en parles, j'en regardais sur Twitter, sur Facebook, et je cherchais les haters de Bobrovsky. Parce qu'il y en a beaucoup qui disent qu'il est trop payé. Oui, il a un gros contrat, puis il est peut-être trop payé. Mais hier, il a livré la marchandise. C'est lui qui a volé la game hier. Là. Un échappé à Brad Marchand, il restait une seconde, il l'arrête. La série était terminée. Là. Il restait une seconde. Il save le... Puis sérieusement, si un autre gardien qui peut changer, si Bobrovsky goal de même, ça va jouer dans la tête des Bruins, là, il s'en va en Floride. J'ai vraiment hâte de voir cette série-là. Puis moi, j'étais sûr et certain hier que les Bruins finissaient ça. Bergeron de retour, il marque en plus. J'étais sûr que... Puis les Panthers sont vraiment tannants. Kachuk, là...
Puis c'est lui qui a fallu qu'il compte en plus en volant.
Ben oui, c'est... Ben, quand tu parles d'un joueur de hockey, ça, c'est un joueur de hockey. Mais son père était... On est surpris, mais en même temps, son père, c'est un méchant bon joueur de hockey. Il était pareil. Fait que c'est son père qu'on voit. Là. C'est les deux, dans les deux, je veux dire, le Brady n'est pas. Mec qui soit en série, ça va être un tannant, celle-là.
Son père, moi, je te dirais que c'était comme un mélange entre Brady et Mathieu parce qu'il y avait un côté offensif, mais il se battait aussi.
Ah, oh, il était gros.
Oui.
C'était un gros monsieur.
All right. Ensuite de ça, j'aimerais ça t'amener sur une série que moi, je trouve très intéressante. C'est Seattle contre Colorado. Je ne m'attendais pas nécessairement à ce que le Kraken réussisse à tenir tête, mais force est d'admettre, l'équipe travaille bien.
Effectivement, c'est de la série étonnante, surprenante. 3-2, le Kraken. Mais le Kraken, on l'a dit au début, c'est une équipe, on n'arrêtait pas de dire, ah, ils vont travailler, mais à un moment donné, mais le travail, puis c'est sûr que si tu m'avais dit Nichushkin et Makar ne seront pas là pendant Nichushkin quitte l'équipe et Makar va être suspendu, je t'aurais dit, OK, ça va peut-être jouer dans la balance, mais vraiment surpris, puis la balance, sont dans. Je dirais dans la merde un peu, là. Parce qu'ils s'en vont à Seattle, que l'ambiance va être incroyable. S'ils ont le malheur de se faire marquer le premier but en plus, aïe, aïe, aïe.
Ah ouais. Non, moi,
mais j'ai hâte de voir. Je pense que cette série-là, l'Avalanche peut encore le gagner, mais j'ai hâte de voir qui va se lever. On n'arrête pas de dire McKinnon, c'est un leader, puis tout. Ouais, mais McKinnon, il n'y a pas les meilleures séries non plus. Là. Il y a des bonnes chances, mais je pense qu'il y a un match qui n'a fait aucun tir au but. Sérieusement, je ne me rappelle pas la dernière fois que j'ai vu McKinnon pas tirer au but.
Moi, ce que je voulais te mentionner concernant ça, c'est que Nathan McKinnon a mentionné comme quoi c'était la première. Non, c'était la série de première ronde la plus difficile qu'il a joué jusqu'à présent. Fait que il y a quelque chose en ce moment qui ne marche pas du côté de Colorado. Ils ne sont pas aussi dominants qu'on les a vus.
Mais le Kraken, c'est une équipe de travailleurs.
Ah oui, non, ça.
Chaque trio, chaque gars que tu vas avoir en face, sur la glace, il va donner tout ce qu'il y a. Puis, je ne dis pas que c'est pas ça que les autres équipes font, mais ça reste que le style du Kraken, il y a tout le temps un gars d'échec avant, puis en tout cas.
On m'informe que c'est 2-1 pour le
Kraken. Ouais, j'ai vu, là, je l'ai mis. 2-1, Tampa Bay, puis ça n'avait pas l'air d'un si beau but que ça. Fait que je pense que Samsonov, c'est un 5-0 qu'on appelle.
Il n'y a rien de perdu. OK. Ensuite, on va passer vite, la série qui fait l'opposition entre les Devils de New Jersey et les Rangers. Actuellement, c'est 2-2. Donc, c'est égal. Le dernier match a été pris par les Devils. Est-ce que l'expérience des Rangers va avoir le dessus sur les Devils ou est-ce que la vigueur des jeunes va les pousser en deuxième ronde?
Ben, je sais pas si tu te rappelles, je pense que jeudi passé, on en a parlé justement, puis je me disais que c'est la série la plus décevante, puis que les Devils étaient terminés, puis finalement, les Devils sont back. L'avantage de la glace, il n'y en a pas là-dedans. En même temps, c'est un peu normal, les équipes font de l'autobus pour aller à un autre match. Là. Ouais. Il n'y a aucun avion de prix, les deux équipes sont probablement des gars des Rangers qui habitent au New Jersey, c'est surprenant, puis c'était 1-0 Devils tout à l'heure, fait que les Devils avaient pris les devants en début de match. C'est surprenant, puis si les Rangers font sortir en première ronde après une avance de 2-0, ça va chialer à New York. Puis en plus, avec Kane, et voilà, Tarasenko, Kane, c'est avec un des meilleurs gardiens de la Ligue qu'on dit aussi, contre un gardien recru qui sort de nulle part. tout ça mis ensemble, c'est du gaz, puis il manque rien que l'allumette pour mettre le feu dans la ville de New York.
Puis je vais être honnête avec toi, là, je me souviens toujours pas de son nom de ce gars. C'est Schmidt.
Akira Schmidt.
Akira. C'est Schmidt ou Schmid?
Schmidt.
OK.
Ben, je me semble que c'est DT à la fin. Oui, il me semble qu'il y a un T à la fin. En tout cas, il est connu dans sa famille, ça c'est sûr.
Ça, c'est une bonne base en termes de fanbase. Okay. On va y aller maintenant avec Vegas Winnipeg. Actuellement, les Golden Knights mènent la série 3-1. Force est d'admettre, Laurent Brossoit fait la job.
Effectivement, très surpris que Laurent Brossoit soit aussi bon, mais sérieusement, ce qui est plat dans cette série-là, c'est les blessures. Oui, on dit que les gars sont blessés, mais là, les gars sont vraiment blessés. Quand tu joues pas en série, c'est parce que t'as de quoi. Puis c'est plate, Mark Scheifele, blessure. Nicolas Healers a pas joué encore. Je pense qu'il va peut-être jouer ce soir. Okay. Mais ça fait mal. Josh Morrissey, l'a dit, la faiblesse des Jets, c'est la défensive. Et leur meilleur défenseur se blesse alors qu'il connaît une saison de Norris en plus, un de tes joueurs préférés, Josh Morrissey en plus. C'est plate, mais les Jets se battent quand même très bien. Le dernier match a été très serré malgré tout. Le match qui perdait 4-1, on mis ça 4-4, deuxième prolongation. J'aime l'effort des Jets, mais je pense qu'à Vegas ce soir, faut pas que les Golden Knights l'échappent parce que leur tournée à Winnipeg pour un match 6, c'est pas la meilleure idée du siècle, moi te le dire. Puis surtout que Laurent Brossoit, oui, il fait bien, mais on sait jamais qu'un mauvais but peut briser une confiance. Ouais. Fait que c'est ça. Mais je pense que ça se finit ce soir, pour être bien franc. À Vegas, l'ambiance va être incroyable. Vegas à domicile sont durs à battre. Fait que,
en effet. Okay,
j'aimerais ça que les Jets gagnent. Une autre équipe canadienne, mais la blessure de Scheifele, il fait trop mal. Puis Morrissey, c'est les deux meilleurs joueurs.
Exact.
C'est ton premier centre, ton premier défenseur. Enlève le premier centre et le premier défenseur de toutes les équipes en série, puis je pense pas qu'ils vont gagner non plus.
Ouais, puis Vegas, il leur manque quand même leur premier gardien, mais pour le reste, ils ont quelque chose à l'attaque, puis ils ont quelque chose à la défense. Fait que...
Bon, leur défensive est assez étonnante aussi.
OK, on va y aller maintenant avec Caroline, New Jersey, c'est 3-2 actuellement.
New York.
Caroline, New Jersey, ouais, hein, Caroline et Islanders, dis-je. J'ai marqué N-Y-I et ça ressemblait à un J. OK,
c'est proche.
Et c'est 3-2 actuellement. Moi, je t'avoue que je m'attendais à ce que la série soit finie, peut-être même 4-1. Là. Fait que pour l'instant, il y a une opposition que je m'attendais moins.
Ben, les blessures, on en a parlé pour les Jets, mais pour les Hurricanes, je pense que c'est ça qui fait mal. Pacioretty, Svechnikov, Teravainen pendant la série. Jack Drury aussi. C'est pas un joueur qui est établi présentement, mais c'est un bon prospect, un bon jeune qui n'était pas là non plus. Mais les Hurricanes dans la game ont complètement dominé. Là. Mais les Islanders aiment les matchs serrés, sont capables de jouer dans les matchs serrés. Sorokin a joué un match parfait, selon moi. Puis les Islanders, moi, je l'avais callé à la notice des sportifs. J'avais dit que ce soir-là, les Islanders allaient gagner. Mais je pense que ça va se terminer demain. Je pense que ça se termine demain.
Moi, ce que je m'avais noté, là, c'est que les Islanders, seulement 22 tirs lors du dernier match. C'est pas tant que ça. Là.
Non, puis ça me surprendrait pas que ce soit Frédéric Anderson, le gardien de but. Je sais qu'on avait entendu dire qu'il fallait qu'il jouait à l'extérieur, puis Hunter à domicile.
Ah oui, la rotation.
Mais là, Anderson a pogné un virus, fait qu'il n'a pas pu faire ça.
OK.
Mais là, ils sont en New York, je pense que ça va être Anderson, parce qu'Aranta n'a pas été si bon.
OK. Puis on finit le tout avec Minnesota contre les Stars de Dallas. Le dernier match a fini 4-0. Ça, c'est une série que je trouve, 1, violente, et 2, Oettinger. Wow. Quel gardien.
Oettinger, Gustafsson. Les deux sont incroyables. Le premier match, je vous avais donné. C'était fou. Là. Les deux goalers avaient goalé des matchs de fou. Deuxième prolongation, c'est le Wild qui se fait dominer en prolongation, mais marque le but. Comme ça arrive souvent, tu vas me dire, les équipes dominent et un tir, puis c'est fini. Mais je pense que les Stars sont partis pour la gloire avec la dernière victoire 4-0. Oettinger regagne la confiance.
Oui.
L'attaque des Stars, ils sont tellement beaux à voir. Herbertson, Hintz, c'est les deux gars, c'est les deux chevaux en avant. C'est les deux plus jeunes. C'est ça qu'il faut. Puis, à un moment donné, Joe Pavelski, on est en série, là, il va revenir. Puis, il ne reviendra pas dans cette série-là, probablement. Puis, tant mieux. Il va te reposer. Mais si Pavelski revient dans cette équipe-là, watch les Stars dans l'Ouest. Moi, si Pavelski revient, c'est mon équipe qui va. Si les Kings sont éliminés, bien sûr, je crois que c'est l'équipe qui va se rendre en finale de la Coupe cette année. L'expérience est là, le gardien de but. Puis, moi, c'est la clé. C'est un bon gardien. Nomme-moi une bonne équipe, je vais nommer un bon gardien. Ben, Oettinger, je pense qu'il peut le faire. Puis, les Oilers, c'est le problème. Ils n'ont pas leur gardien. Hein. Je sais qu'il y en a plein qui favorisent les Oilers pour se rendre en finale s'ils sortent les Kings. Mais Stuart Skinner, j'ai aucune confiance en Stuart Skinner. Il accorde des mauvais buts. Je pense qu'il est stressé. C'est sûr que la pression de Minton, c'est incroyable. Mais je pense que les Stars, ça serait le fun, les Stars. Dadonov et Domi avec la coupe, j'aimerais ça.
Je m'attendais pas à celle-là. OK, mais ça me permet quand même de te poser une question rapidement avant que
oui.
Tu quittes. Est-ce que vraiment l'Avalanche Colorado avec Kemper avait un bon gardien?
Oh, c'est bon. Ça marnouche. Je pense que c'est l'exception à la règle. Je pense qu'il y a des équipes que tu peux mettre n'importe qui des buts et ça va marcher parce qu'il a gardé cette année les mêmes stats, je pense. Je pense que Georgiev et Kemper ont à peu près un pourcentage sur leur pourcentage d'arrêt. Ils ont presque la même moyenne. Je parlais plus des Oilers. Dans le système des Oilers, ça prend un bon gardien. Si tu leur mets un bon gardien, ça va être dangereux. Mais malheureusement, ils ont signé Jack Campbell à long terme.
Ouais,
la soupe qu'ils disent.
Un choix qui
est... Mais Jack Campbell a sauvé le match. Il a fait des arrêts incroyables quand il est revenu. Mais je pense que le coach le sait que c'est peut-être un coup de chance.
Je pense aussi. Il y a du monde qui m'a demandé est-ce qu'ils vont revenir avec Campbell.
Tout le monde s'est posé la question, mais moi j'espérais qu'il arrive avec Campbell parce que je pense que ça aurait pu être bon pour les Kings, mais bon.
All right. Ben écoute, sur ce, moi, je vais te laisser retourner à ton repêchage de la NFL. J'ai vu que c'est Young qui devait être choisi premier, ça se peut-tu?
Oui, ben je pense que le choix a été fait. Là. J'ai pas regardé parce que je te parlais, mais j'imagine que c'est Young, Bryce Young.
Bon, j'ai aucune idée de son prénom, j'ai juste vu que c'était Young qui était ici premier. All right, bon repêchage à toi, puis on s'en va très prochainement.
Merci, bye.
Bye. Alors là, on va continuer maintenant, et cette fois-ci, on va s'attaquer à la LHJMQ, puisque oui, au niveau de la LHJMQ, il y a des séries aussi, mais il y a aussi une loterie. Alors aujourd'hui, on va s'adresser à P.O. Normand, notre chroniqueur de la Coupe.ca.
Hey, hey!
Hey, hey!
Comment ça va?
Ça va très bien, toi?
Ça va très bien, merci.
Yes, et on va également s'adresser à Gabrielle, qui est aussi chroniqueuse au niveau de la Coupe.ca. Gabrielle, bonsoir.
Bonsoir.
Alors là, je vous propose, est-ce que vous voulez qu'on commence avec les séries éliminatoires ou avec la loterie?
Peu importe le choix, moi je te dirais, là, j'ai du stock, là, je suis énervé comme un enfant à Noël.
Bon, OK, si vous ne voyez pas d'inconvénient dans ce cas-là, on va commencer avec la loterie qui a eu lieu cette semaine au niveau de la LHJMQ. Oui. Vous m'expliquez, est-ce qu'on tire uniquement les 5 premières positions?
Et en fait, comment il faut le comprendre, c'est que selon ta position de classement, donc dans la Légion majeure du Québec, on a 18 équipes, les 5 dernières ont des pourcentages dans un boulier. Donc, si tu es 18e, tu as plus de chances que si tu as terminé 5e avant-dernier, ainsi de suite. Cette année, c'était les Saguenay de Chicoutimi qui avaient le dernier choix, puisqu'ils possédaient le choix du Stade d'Acadie Batters qui ont fini dernier au classement. Et voilà, malgré ces pourcentages-là, je crois qu'on a vu que la loterie demeure un jeu de hasard. Alors que les Wildcats de Moncton ont réussi à avoir leur boule sortir lors de ce repêchage.
Oui, puis je peux même appuyer tes faits. J'avais pris en note, là, le pourcentage était à 43% pour ce qui est de Chicoutimi. C'est, oui. C'est plus de 50 % quand même, et Moncton, il était à 28 % puis finalement, c'est eux autres qui vont sortir le premier, fait quand même assez chanceux. Alors, de ton côté, Gab, ben écoute, on a une loterie qui, je pense, a quand même assez respecté le classement. Là. C'était quand même pas si...
Oui.
Mon impression de la loterie pour toi, c'est quoi?
Ben, je pense que, ben, honnêtement, toutes ces équipes-là, sur les cinq équipes qui ont eu les cinq premiers choix, honnêtement, c'est les cinq équipes qui ont déjà des équipes assez... trois de ces équipes-là sont assez déjà bien garnies, on va se le dire. Par contre, l'Armada et les Foreurs de Val-d'Or méritent bien ces deux leurs choix. Parce qu'ils n'ont pas une saison facile, mais par exemple, en cinquième rang, on a eu l'Océanique qui repêche et l'Océanique a eu une très bonne, une saison correcte. Et ainsi que les Saguenayens qui ont eu une saison du même type que l'Océanique, puis les Wildcats, c'est la même chose, ils ont eu une bonne saison. Donc, honnêtement, c'est pas un repêchage qui est très intéressant en fait, pour les équipes de bas de classement.
Ouais. En fait, ce qu'il faut savoir, Yves, là, c'est que les équipes qu'on vient de nommer, Moncton, Chicoutimi et Rimouski, ils ont su tirer un lapin de leur chapeau parce qu'ils ont été. Ouais. Ils ont obtenu les choix de première ronde. Du côté de Chicoutimi, on avait obtenu le choix de première ronde du Stade Acadie Batteur. Du côté de Rimouski, c'est le choix, si je ne me trompe pas, de Charles Octave. Et celui-là de Moncton, si je ne me trompe pas, c'est le choix de Saint-Jean, de Val-d'Or ou de Saint-Jean.
Saint-Jean, donc, c'est Val-d'Or qui l'a.
Exact. Donc, tu peux voir que la logique, en fait, si on avait suivi la vraie logique, que c'est vraiment les équipes de bas de classement, présentement, ce serait donc de dire que Val-d'Or repêcherait premier, Cady Batters deuxième, bon, ainsi de suite, mais... C'est ça la magie de faire des échanges dans le circuit junior. Ça peut arriver que si tu finis en bas de classement et que ton choix appartient à une autre équipe, ben voilà, c'est ce qui se passe.
En effet, parce que là, dans le fond, si tu regardes ça, théoriquement, c'était Val-d'Or, Batters, Blainville, Saint-John, Charlottetown. Puis là, au final, exact. Saint-John, il n'y a juste pas dans le top 5 points.
Saint-John, c'est un lendemain de veille là, pour eux autres. Le lendemain de Coupe Memorial, il ne fallait pas s'attendre que ce soit facile pour eux. Là. Ils vont avoir encore quelques transactions complétées pour revenir directement là, sur le chemin de fer pour la reconstruction.
OK. Puis là, j'ai une question pour vous, parce que je sais que la réalité du junior est différente du professionnel, mais est-ce que quand on repêche le premier, le deuxième, c'est des gars qu'on est assuré qu'ils vont venir jouer dans la LHGMQ? Ou ça peut être des gars qui... Non, OK.
les ligues professionnelles, Yves, ça a un certain prestige, puis je vais laisser compléter Gabriel là-dessus. Mais la Ligue junior majeure du Québec, de plus en plus de joueurs, que ce soit des joueurs des Maritimes ou du Québec, optent aussi pour le circuit américain. Donc, ça donne ce que ça donne. Certains espoirs qui devraient être repêchés premiers, ben, se ramassent, ils vont jouer aux États-Unis, donc les équipes doivent vous sélectionner ailleurs dans le panier d'espoir.
OK.
Oui. Puis moi, ça me fait penser d'ailleurs à un cas, Zachary Bolduc, qui voulait aller jouer aux États-Unis, était parti jouer aux États-Unis. Nick Crosby est venu à Rimouski pour retirer son chandail. Et Sidney Crosby a appelé Zachary Bolduc pour lui dire « Viens jouer à Rimouski ». Zachary Bolduc est revenu à Rimouski. Et finalement, on connaît l'histoire, il rentre avec les Remparts, mais quand même...
La force des anges.
Ouais, c'est ça.
Donc, mais il faut comprendre une chose, même le repêchage de cette année là, exprime un peu le problème qu'on est en train de souligner. Alors que les Saguenay et Chicoutimi vont avoir, en plus de leur choix de deuxième au total, vont avoir deux autres choix de première ronde, puisque l'an passé, sur leurs quatre choix de première ronde, il y a deux joueurs qui ont décidé de ne pas se présenter chez les Saguenayens. Les Saguenayens auraient pu conserver les droits des joueurs et donc peut-être espérer s'entendre avec eux autres. Mais c'est officiel. Sacha Boisvert, entre autres, là, va jouer USHL et après, il va jouer Université américaine. Donc, les Saguenayens ont profité un peu là, de ça pour avoir récupéré deux choix de première ronde. Un qui sera le 12e au total, si je ne me trompe pas, et un autre qui sera en fin de première ronde.
Fait que là, si je comprends bien ce que tu m'expliques, c'est que dans le fond, c'est pas en première ronde, c'est pas le nombre d'équipes qui a de choix. Il y en a un peu plus.
Ben, ça dépend des années, Yves. En fait, les années où justement, il y a des récalcitrants, donc où il y a des joueurs qui sont des choix de première ronde qui décident de ne pas se présenter dans leurs équipes parce que ce n'est pas à s'entendre où ils décident de sélectionner tout simplement d'aller jouer aux États-Unis. Ben, les clubs de la Ligue junior majeure du Québec ne perdent techniquement pas leur choix puisque la Ligue leur redonne un choix équivalent là, au repêchage l'année d'après.
OK. Fait que c'est comme une contrebalance. Et ouais, ça m'amène à poser une question. Gab, est-ce que tu penses qu'une organisation comme Moncton, qui vous semblez dire qui est quand même pas mauvaise en ce moment-là, elle pourrait être tentée de choisir un talent très élevé, mais qui n'est pas sûr de venir dans la Ligue vu qu'ils choisissent premier?
Ben, honnêtement, cette année, le choix va probablement se tourner vers Caleb Desnoyers. Donc, Caleb Desnoyers est pas mal convaincu de venir jouer dans la Ligue. Là. On y en parlait. Je pense pas que ce soit un problème pour ça. Puis, son frère était dans la LGMQ, apparemment. Je me rappelle plus de son nom.
Mais, Elliot!
Elliot, c'est ça. Elliot était là.
A d'ailleurs joué un peu pour les Wildcats, donc il y a des liens, là.
Oui, donc c'est ça, il n'y a pas de problème de ce côté-là, mais évidemment, je pense qu'il pourrait, si ça avait lieu d'être, ben je pense qu'évidemment, Moncton pourrait essayer, malgré tout, oui.
D'aller chercher le plus élevé talent, même s'il n'est pas sûr. Ouais. Sinon, ben, on s'entend que tu n'es pas en mauvaise position là, quand tu choisis deuxième, troisième. Là, fait que c'est pas dramatique non plus. Est-ce que pour vous, le choix, ben là, vous m'avez parlé vite de Rimouski, on n'avait peut-être pas nécessairement besoin d'un top 5, mais on va y aller avec Val-d'Or. Val-d'Or qui choisit quatrième. On n'est pas tant satisfait parce que notre ancien choix aurait été premier, mais c'est-tu quand même relativement bien?
Ben, je pense qu'avec le repêchage qu'on a cette année, on va être capable d'aller chercher un bon joueur. Il y a des bons jeunes attaquants, mais aussi des bons jeunes défenseurs disponibles. Là-dessus, moi, ce que je surveillerais du côté de Val-d'Or, c'est qu'on vient de tomber carrément en reconstruction. On commence à monnayer certaines choses. Entre autres, on a monnayé juste un Robida pour aller chercher certaines choses. On va avoir un nouveau directeur gérant. On le sait, Maxime Desruisseaux, en plus d'être devenu entraîneur-chef, a été nommé aussi directeur général du club de Val-d'Or. Donc, savoir un peu là, comment il va orchestrer tout ça. C'est clair que du côté là, de Val-d'Or, on va rebâtir, on va vouloir rebâtir rapidement parce que c'est une organisation là, d'un petit marché, donc on ne peut pas se permettre là, de commencer à s'éterniser trop tôt.
Parfait. Et là, je vais me tourner de ton côté, Gab. Du côté de l'Armada de Blainville-Boisbriand, c'est notre choix et on choisit troisième. Pour eux, j'imagine que ça va être un bon coup de pouce là, avec la saison qu'ils ont eue.
Oui, surtout que l'Armada avait essayé, tant bien que mal, d'avoir une saison quand même de qualité en allant chercher Josh Lawrence. Ça n'a pas fonctionné, malheureusement. Je pense que l'Armada peut être une équipe compétitive. On l'a vu en fin de saison que leur noyau de jeunes joueurs est quand même bon. Ils ont un bon potentiel. C'est quand même des bons leaders. Ils ont bien fait d'échanger leurs vétérans aussi. Plusieurs vétérans qui venaient des Maritimes qui sont retournés dans leur lieu natal. Puis je pense que ça a fait du bien ça aussi, ce petit ménage-là. Je pense que le choix numéro 3, évidemment, il aurait espéré avoir plus. Ouais. Mais rendu là, le troisième choix, c'est pas mauvais.
Puis je suis curieux de vous poser une question parce qu'on a reçu sur le podcast Jonathan Fauchon qui jouait chez l'Armada de Blainville-Boisbriand. Il est disponible pour, je pense, la deuxième année au repêchage de l'NH. Là. Est-ce que c'est son année cette année? Il va-tu y aller?
Malheureusement, je pense pas que Jonathan va être repêché. Je pense qu'il y a d'autres espoirs plus jeunes qui sont disponibles sur le repêchage. Par contre, Jonathan, ce qu'il faut pas oublier, c'est que c'est pas parce que c'est un joueur qui est pas repêché qu'il ne signera pas avec un club de la Ligue nationale. Dans le cas de Fauchon, j'ai l'impression qu'avec l'année qu'il a connue, il va peut-être avoir un essai dans des camps de recrues et des camps professionnels. Et il pourrait recevoir ensuite là, un contrat de la Ligue nationale par la suite. Donc, il ne faut pas abandonner. Ce n'est pas parce que tu es repêché ou non que tu ne prends pas ta place dans la Ligue nationale.
En effet. OK. Ensuite de ça, on va y aller avec Chicoutimi qui choisit deuxième total. Ça, on reçoit ça avec beaucoup de joie, j'imagine.
Ben, un sourire large, large comme l'amphithéâtre du centre Georges Vézina. Mais du côté des Saguenay, écoute, là, on a la main remplie. Là. On a eu une belle saison. On a un Maxime Massé qui joue très bien. On a été chercher un autre jeune de 16 ans au Cap-Breton, Desruisseaux. Maintenant, on est en train de bien former les noyaux. Est-ce que Yannick Jean va garder tout ce noyau de jeunes-là? Écoutez, dépendamment de comment ils veulent reconstruire et comment ils veulent y aller, les Saguenayens, présentement, ont des munitions pour être tannants puis être de gros acheteurs à bon prix là, dès le repêchage.
OK. Puis, ben, sinon, Moncton, on en a parlé un petit peu tantôt. Avant qu'on passe aux séries éliminatoires, ben, écoute, Gab, je vais me tourner vers toi. Et puis, on a eu le renvoi d'un icône au niveau de la LNH, littéralement, M. Beausoleil, qui a été renvoyé. Écoute, éduque-nous là-dessus.
Oui, ben, écoute, BPO en a parlé à l'analyse sportif, là. Oui. Mais, grosse décision de le Sané qui, honnêtement, moi, j'étais, je vais vous expliquer comment j'ai appris la nouvelle, c'est quand même très drôle. J'étais avec mon ami, à son travail, je t'ai précisé que j'étais dans un étable. Et je reçois cette notification-là de Stéphane Leroux sur mon cellulaire. J'ai figé. Mon ami a dit « Est-ce que tu as oublié quelque chose? Un rendez-vous? » Là, je dis « Non, non, regarde ça. » On était les deux sous le choc, mais avec du recul, je pense que c'est pas une mauvaise décision de la part d'Alexandre Tanguay. Évidemment, s'il a pris cette décision-là, je crois que il s'en va. Honnêtement, il ne ferait pas des grosses décisions comme ça juste pour le plaisir d'en faire. J'ai écouté le bilan de fin de saison de long en large et ce qui ressort de ce bilan, c'est le message ne passait plus dans la chambre des joueurs après 12 ans. Bon, écoute, les joueurs restent de 4 à 5 ans, donc je veux dire, la raison est un peu...
C'est ouais, ça. Ben, les équipes changent beaucoup. Là.
Oui. Okay. Oui, vas-y, Péo.
Écoutez, je vais, après avoir écouté le point de presse puis après avoir discuté avec plusieurs contacts à travers la Ligue junior majeure du Québec, je crois que, nonobstant que Serge Beausoleil est un excellent entraîneur de hockey, toute qu'une tête de hockey, je pense que du côté de l'Océanique, là, le message qu'Alex Tanguay veut envoyer, c'est qu'on est un train en marche. On veut obtenir la Coupe Memorial de 2025 et on veut avoir une équipe performante sur la glace. Par contre, présentement, le noyau de joueurs qui est là, qui devrait être à leur summum en 2025, peut-être que le message ou tout simplement le niveau d'entente avec l'entraîneur-chef et directeur général, Serge Beausoleil, n'était pas au beau fixe. Donc, du côté de la Sané, comme je l'ai dit, on est un train en marche, puis si on veut atteindre bon port, puis être compétitif et obtenir la Coupe Memorial, ben il faut faire des changements, puis dès maintenant. Je pense qu'il y a des choix difficiles qui ont été faits du côté de la Sané. Ouais. Maintenant, le départ de Serge Beausoleil, on a assuré lors du point de presse qu'il n'y a aucune autre personne dans l'organisation qui allait quitter. Écoutez, on n'est tous pas dupes. Là. Si Serge Beausoleil s'en va dans une autre équipe demain matin, il y a plusieurs personnes autour de l'équipe hockey de la Sané qui pourraient tenter de tendre l'oreille. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? C'est clair que l'Océanique a toujours été réputé pour avoir de bons entraîneurs-chefs. Écoutez, Doris Labonté, Clément Jaudoin et Serge Beausoleil, ouais. Parmi ces trois-là, je pense que c'est un très bon CV. Donc, attendez-vous pas à avoir quelqu'un qui n'a pas une bonne liste d'expérience. On a déjà entendu certains noms circuler, comme... certains Guy Boucher. Maintenant, j'ai vraiment hâte de voir. Là, c'est clair qu'Alexandre Tanguay est déjà en train de regarder le tout puis d'étudier le tout avec son équipe hockey. Par contre, du côté de l'Océanique, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas parce que Serge Beausoleil est parti que l'équipe ne pourra pas préparer le repêchage parce que le directeur général adjoint, Danny Dupont, va prendre le relais pour préparer le tout. Puis Danny Dupont est quand même une très bonne tête d'hockey aussi.
Oui, exact. On aimerait ça avoir un nouveau avant le repêchage, mais on a dit que c'est totalement Danny Dupont qui allait orchestrer le tout. On veut on lui laisse ça entre les mains pour le repêchage 100%. Puis, tu sais, ils visent la Coupe Mémorial en 2025. On a fait des gros changements de leur côté depuis qu'on vise la Coupe Mémorial. On a échangé un Zachary Bolduc pour ça. On a échangé un Frédéric Brunet. Donc, on est prêt à se départir de morceaux importants pour la Coupe Mémorial. Donc, si on prend cette décision-là, c'est clairement une décision réfléchie et la bonne décision. Bon, on veut la Coupe Mémorial à Rimouski en 2025. Shawinigan vient de se rajouter dans la course pour...
Moncton aussi, je te le dévoile en mille. Moncton aussi, mais...
Ben, je crois que les Olympiques aussi veulent se rajouter. Donc, écoutez, on va avoir beaucoup de plaisir dans cette course à la candidature pour la Coupe. Mais aussi, un fait que je veux mentionner qui n'est pas avec le Saline, mais les Huskies ont aussi pas renouvelé le contrat de leur entraîneur-chef. Grosse nouvelle, ça aussi, je comprends pas trop parce qu'il y a eu une saison extraordinaire. Donc, je ne sais pas trop, Pio, ce que tu en penses, mais...
Ben, écoutez, du côté des Huskies de Rouyn-Noranda, je pense qu'on a eu vraiment la mèche courte. Brad Yetman est venu remplacer un Mario Pouliot dans les circonstances qu'on connaît. On a eu bien sûr le départ de Marc-André Bourdon qui avait nommé Yetman. Maintenant, présentement, c'est M. Gaucher, là, j'oublie son prénom, là, mais le père de Nathan et Jacob Gaucher qui est maintenant rendu directeur général du côté des Huskies de Rouyn-Noranda. Est-ce que Yetman était son homme de confiance? Je pense qu'on vient d'avoir la réponse là, du côté de Rouyn-Noranda. Je pense pas. Maintenant, c'est à voir. Là. D'habitude, Rouyn-Noranda est une organisation réputée pour sa stabilité au poste d'entraîneur-chef. Mais depuis quelques années, là, depuis le départ, entre autres, là, de Gilles Bouchard, là, on vogue là, un peu dans des eaux troubles. Donc, c'est à voir comment on va aligner ça là, du côté de Rouyn-Noranda.
OK. Il y a du changement au niveau des entraîneurs-chefs, est-ce que je vois?
Ouais,
entraîneur-chef, entraîneur adjoint, ça bouge partout, Yves. Puis c'est je te le dis, ça n'a pas fini de bouger.
Ça nous permet de plugger un petit quelque chose aussi, c'est qu'on a un ancien invité du podcast à la Coupe, Joël Perrault, qui s'est trouvé une job en tant que, je pense, entraîneur adjoint, si je ne fais pas erreur.
Tout à fait. Entraîneur adjoint du côté des Tigres de Victoriaville a été nommé hier là, en compagnie de Mike Winter. Donc, deux entraîneurs-chefs de la Ligue du Midget 3 qui graduent dans la Ligue junior majeure du Québec. Écoutez, je vous mentirai pas, Joël Perrault était probablement quelqu'un de très convoité. Lorsqu'on s'est annoncé sur notre groupe chat de la Coupe, à peu près tout le monde, toutes les équipes ont dit « Ah, oh, j'aurais aimé l'avoir dans mon club! » Donc, ouais. C'est des choses qui arrivent. Présentement, les Tigres ont tout qu'un trio d'entraîneurs là, mené par Carl Mallette. C'est très intéressant. Joël Perrault qui va faire ses premières armes, mais qui a connu une excellente saison en tant qu'entraîneur-chef dans la Ligue Midget 3A. Donc, on peut juste que le féliciter puis lui souhaiter la meilleure des chances là, du côté de Joël.
À 100% d'accord, puis un chic type. Fait que franchement, meilleure des chances à lui. All right, on y va maintenant du côté des séries éliminatoires puisqu'on connaît maintenant le corridor, c'est qui va jouer contre qui. On a une série qui va opposer quand même deux gros clubs, là, si je me fie à ce qu'on m'a raconté, Québec et Gatineau. Votre feeling par rapport à ça, Québec est toujours invaincu à ce que je sache? Là.
Écoute, Yves, je vais commencer puis je vais lancer les hostilités. De mon côté, présentement, j'ai mon carré d'as que j'avais prédit il y a quelques semaines.
Oui, hein? Moi, je pense que oui.
J'avais prédit ce carré d'as-là. Maintenant, Québec-Gatineau, c'est une bataille de tranchées. C'est deux grosses puissances. Ils se sont échangés de gros matchs cette saison. Écoute, il y a les deux équipes ont eu des importantes blessures. On le sait, là, du côté de Gatineau, on manque un gros défenseur à Noah Warren, mais Tristan Luneau joue le solide série.
Oui.
Il sent qu'Aridé joue le solide série. Riley Kidney, c'est des gros joueurs. Et du côté des remparts aussi. Par contre, le facteur qui va faire la différence, c'est dans les buts. Et Lampeda, du côté de Gatineau, là, wow, quel joueur.
De ton côté, Gab?
Ben moi, ce que j'aurais à rajouter, c'est que honnêtement, bon, Québec a connu une adversité en deuxième ronde, on le sait. Est-ce que ça peut. Est-ce que les difficultés que Québec ont connues peuvent être positives ou négatives? Ça, c'est ce qui me passe par la tête. Je veux dire, ils n'auraient pas été supposés avoir autant de difficultés contre l'Océanique en deuxième ronde. Bon, ils ont gagné en quatre, mais quand même, on en a déjà parlé. Ça a été une série qui n'a pas été facile quand même pour eux. Mais aussi, positif, ils peuvent dire que l'adversité, ils connaissent ça. Ils en ont eu en deuxième ronde. Donc, peut-être, ils sont quand même plus habitués, entre guillemets, que Gatineau, qui a eu, l'a eu facile la deuxième ronde. Alors que, tu sais, c'est plutôt l'inverse. Gatineau pensait que ça allait être difficile contre Rouyn-Noranda, mais bref, ceci étant dit, moi, c'est comme, tout comme PO l'a dit, ça va se jouer dans les buts. Rousseau a volé des matchs en deuxième ronde à l'Océanique. Il a volé beaucoup de buts à l'Océanique. Il a été incroyable. La aussi, bon, de blanchissage en deuxième ronde. Moi, je pense aussi que du côté de Québec, Théo Rochette va devoir être meilleur parce que ça n'a pas été super. Il a été très discret.
Absent. Il est très oui. Absent.
Oui, c'est épouvantable. C'est épouvantable. Le capitaine est absent.
Je peux-tu te ramener, Gab? Tu m'avais parlé, je pense que c'est Lampedor, le gardien?
Lampedor,
oui. Francisco Lampedor.
Lui, tu m'avais dit, tout le monde parle de lui, il est bon, mais il y a toute une équipe devant lui. Est-ce que tu penses que c'est un élément qui peut jouer contre lui? Parce que là, Québec, il y a toute une équipe qui va l'affronter. Là.
Ben, non, pas tellement. Parce que, oui, c'est sûr que, comme j'ai dit, c'est ça, la deuxième ronde, ça a été facile de faire des blanchissages parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de tirs contre sur lui. Par contre, Lapena reste un excellent gardien de but et qui a gagné mais qui s'est rendu loin l'an dernier.
Donc,
en finale, c'est ça. Fait, on s'entend que Lapena a beaucoup de talent et qu'il est vraiment. Je pense que lui et Rousseau, ça s'équivaut pas mal au niveau
qualité. Là-dessus, je peux juste dire que je suis d'accord avec Gabriel. La seule chose, c'est que je vais envoyer une flèche du côté des Remparts de Québec. Oui, William Rousseau est un excellent gardien de but, sauf qu'il n'y a pas eu de gros joueurs offensifs contre lui lors des deux premiers ronds. Je m'excuse à l'Océanique de Rimouski, mais ils n'ont pas de marqueur de 50 buts. Même s'ils ont fait donner du trouble, ils n'ont pas de marqueur de 50 buts. Donc, présentement, William Rousseau aura son premier vrai test des séries. Il va affronter une attaque qui est tout feu, tout flamme. Ça va être très difficile pour la défensive et le gardien de but des Remparts de Québec. Et du côté de Gatineau, ben, moi, ce que je tiens à dire, c'est que justement, du côté des Remparts de Québec, on n'est pas piqué des verres aussi à l'attaque. Nathan Gaucher, Bolduc, qui a nommé ceux-ci, mais il y en a d'autres aussi qui réussissent à remplir le net. Je crois que ça va être une série vraiment très belle à surveiller. Mais écoute, là, c'est moi, j'ai mon choix personnel déjà de décider. Là.
OK. On y va avec les prédictions dans ce cas-là. On y va avec les prédictions dans ce cas-là. Fait que PO, je comprends que tu as déjà ton choix. Vas-y, c'est quoi ton choix?
Ben, en fait, il y a quelques semaines, je vous l'avais dit, je voyais Gatineau-Sherbrooke en finale. Ça va se réaliser. Donc, ça sera Gatineau en 6 matchs. Mais ça va être toute qu'une série. Écoute, là, les gradins sont déjà pleins du côté du centre Vidéotron. Oh. Mais les Olympiques de Gatineau, c'est tout qu'un club là, qui est en marche.
Parfait. De ton côté, Gab?
C'est la même prédiction que PO Gatineau en 6, et c'est ce que je souhaite sincèrement. Mais Gatineau en 6, selon moi, ça va être une grosse série, mais que Gatineau a un avantage sur Québec, selon moi.
OK. Fait que les deux, vous êtes d'accord. Ensuite de ça, on va y aller du côté de Halifax qui va affronter Sherbrooke. Alors là, si je vous écoute parler depuis tantôt, ben disons que Halifax ne devrait pas passer cette ronde-là.
Ben écoute, du côté d'Halifax, c'est pas parce qu'on n'a pas une bonne équipe. Par contre, si on prend les vis-à-vis, Sherbrooke est beaucoup plus complet. Ils ont une équipe, justement, là, qui a avancé durant les séries, qui a tout le temps très bien été. Et on l'a vu dès la deuxième ronde du côté d'Halifax. Moncton a quand même réussi à les surprendre. Moi, du côté d'Halifax, j'ai des gros points d'interrogation du côté de la défensive. C'est pas une équipe qui est vraiment misée sur ce là-dessus. C'est vraiment une équipe qui est misée sur l'attaque. On a des gros joueurs en Jordan Dumais, entre autres, qui vont justement être capables de très bien jouer à l'attaque. Mais du côté de la défense, là, oui, on peut mentionner Jake Furlong, mais c'est un défenseur style offensif pur. Donc, j'ai vraiment des gros points d'interrogation, tandis que du côté de Sherbrooke, on a des valeurs sûres à la défense, comme entre autres Tyson Hines, qui est un pilier défensif. Puis, ben, du côté de l'attaque, j'ai pas besoin de le mentionner, un certain Joshua Roy et sa bande qui sont incontrôlables.
J'aimerais juste plugger un petit quelque chose. Là, on a un abonné ici qui nous dit la défense des Olympiques avec la perte de Warren Lampena est une grande cause des victoires des Olympiques.
Ben, alors, je suis d'accord avec Frédéric là-dessus. Noah Warren aurait pu justement causer de sérieux problèmes. Mais écoute, Lampena a su se lever avec brio. Mais il faut aussi dire que du côté là, des Olympiques, Luneau, Boutin, les défenseurs se sont. Des joueurs se sont levés. Oui, il y a des styles offensifs, mais des joueurs et des attaquants, justement, qui replient plus facilement parce qu'on le sait qu'on n'a pas le choix de faire la différence parce qu'il manque un pilier à la défensive avec Noah Warren.
OK, d'accord.
Ils n'ont pas,
va...
oh, pas laissé leur gardien de but tout seul, Gaston.
OK, OK. Et là, ben, on va revenir avec Sherbrooke-Halifax. Gab, de ton côté, toi?
Ben, c'est ça, on l'a dit depuis le début des séries, Halifax, grosse attaque, mais ouais. Sherbrooke est tellement dominant. Sherbrooke laisse aucune chance à ses adversaires depuis le début des séries. Oui, Québec a gagné tous ses matchs en quatre. Par contre, Sherbrooke a gagné de manière assez aisée tous ses matchs en quatre.
Oui, aussi, c'est tout en quatre.
Ouais, ce qui est assez impressionnant, là, des gros pointages. Donc, Sherbrooke est dominant. Ils ont un bon gardien de but, ils ont de la bonne défensive, ils ont des bons attaquants, ils sont complets. Halifax n'est pas complet. Ils ont su s'en sortir avec une forte attaque en première et deuxième ronde. Mais contre Sherbrooke, je ne suis pas convaincue que ça va fonctionner rendu là. Donc,
l'équipe est trop complète. Est-ce qu'on y va avec un balayage? Là? Je vous écoute parler, là, puis ça n'a pas l'air d'être
non, très non.
Non? Okay. Fait que niveau prédiction, là, mettons, Gab, on y va avec toi en premier. On y va avec qui?
J'ai dit Sherbrooke en 6. Parce que honnêtement, Halifax peut.
Ça prend pareil.
Oui, Halifax peut gagner des matchs. Là, ça ne leur enlève rien, mais voilà.
OK, puis de ton côté, PO?
Ben écoute, je lisais tantôt sur Twitter, je m'amusais avant regarder avant le match, puis certains partisans sont assez wild en disant que Sherbrooke devrait gagner même en 5. De mon côté, je suis assez conservateur, puis je joins l'idée à Gab. Sherbrooke va remporter cette série en 6 parties.
OK, fait que vous êtes pareil, ces deux séries.
Ouais.
Bon, OK, ben on va y aller.
Il n'y aura pas de combat ici ce soir. Il n'y aura pas de combat ici ce soir,
Guillaume.
On est tous les deux d'accord.
Vas-y. Il y a juste Guillaume qui avait changé. Guillaume, il avait dit, je pense, Gatineau en 7, puis... attendez, je vais vous sortir ça. Ouais, Gatineau en 7, mais il y avait du Sherbrooke en 6 aussi. Donc...
OK, il y a une petite différence d'un match.
Ouais.
Wow, c'est OK, ça. C'est bon. OK, alors maintenant, on va compléter le tout et on va y aller avec une petite dose d'humour pour fermer le show. Et on a la dose patate.
La dose à patate!
Bonsoir à tous!
Bonsoir!
C'est super. Alors, cette semaine, on a beaucoup parlé du troisième lien que Québec n'auront finalement pas. Le gouvernement a eu peur que le tunnel soit vide, n'est-ce pas? Ils ont déjà investi dans une aréna vide à Québec. Ils ont peur d'investir dans un tunnel qui pourrait être vide aussi, vous voyez? Il ne faudrait pas que Québec devienne une ville avec une aréna pas de club et un tunnel pas de char. La première fois, j'entends ça. À Québec, ils sont habitués de pleurer pour rien. Ils pleurent pour peinturer le pont de Québec. Ils pleurent pour un tunnel. Ils pleurent pour un club d'hockey. Mais on sait comment les consoler. On programme Metallica aux plaines d'Abraham l'été. Les Backstreet Boys au centre Vidéotron.
Okay,
et ils seront très heureux. Par contre, j'ai beau ridiculiser la ville de Québec, mais à Montréal, on a beau avoir du sport, mais ça ne veut pas dire que ça va guère mieux.
OK.
Je regarde l'Impact. Ils ont 5 buts en 8 parties en MLS.
Ouais, ouais.
5 pauvres buts. Il faudrait quand même leur rappeler que gagner une partie de soccer 0-0 ne te donne pas la victoire. Hein? Il faut faire des buts. On revient à la base, les mecs. On revient à la base.
Ouais, c'est dur.
Après ça, même l'Impact s'est même vanté de gagner une partie contre le Vaughan Azuri. Le Vaughan Azuri. Qu'est-ce que c'est? J'en ai aucune idée. Pour moi, ça m'inspire plutôt une nouvelle marque de pick-up de Volkswagen. Le nouveau Vaughan Azuri.
Ben non, vendeur.
Écoute, l'Impact a gagné contre le Vaughan Azuri, il y avait intérêt. Et si tu perds contre une équipe que tu ne connais même pas de quelle ville il vient, il y a un problème. L'Impact qui perd contre le Vaughan Azuri, c'est un club de la ligue semi-professionnelle. Ce qui veut dire que si le Canadien, il jouerait contre les pétroliers de Laval. Et le Canadien perd. Vous voyez quelle situation qu'on nous amène. Avec le Canadien qui... Ah oui, c'est ça. Okay. Avec le Canadien, maintenant, je vous amène avec les séries. Avec le Canadien qui ne fait pas les séries, j'ai regardé le Rocket de Laval.
Ah, ça n'a pas été long.
Oh non, après 2 petites games, c'était fini.
Ouais.
On a pu... Le Rocket de Laval a fini sa saison à la même image que sa propre ville. De la grosse marque.
Ah!
Oh! Oh, wow.
On a pu aussi apercevoir Nick Suzuki à une game des Kings de Los Angeles dernièrement. J'étais très surpris qu'il soit là. J'aurais pensé qu'il profite de son printemps comme moi. Ramasser des feuilles mortes remplies de sangsues, gérer l'eau brun marbre de ma piscine et ramasser toutes les belles crottes que mon chien m'a laissées cet hiver.
C'est un lapin, non?
Oui, c'est un lapin.
Lapin!
C'est le lapin du Canada! Toutes ses priorités pour lui, il a décidé d'aller à Los Angeles. Il est allé voir son ancien coéquipier, Philippe Danault. Quand c'est les séries, on est toujours hanté par les anciens du Canadien, n'est-ce pas? Il y a eu Dano, il y a Lekkonen l'année passée, et maintenant, on a notre merveilleux Dandonov avec 3 buts en 4 parties. Et avec le Canadien, il avait fait 4 buts en 50 parties. N'est-ce pas un bon cadeau de Michel?
Ouais, l'utilisation est différente, France.
Et sur ses 4 buts en 50 parties, 2 de ses buts étaient dans un filet dessert. Wow!
Ça joue de talent.
Ouais.
Cette année, on espère tous que Toronto passe enfin la première ronde. Avant, on s'en colissait, mais maintenant, ils font pitié.
Oui.
Leur dernière coupe date de 1967. Gagner une coupe à Toronto, c'est devenu aussi rare que gagner la première ronde. On entend souvent la première ronde que c'est la plus tough à gagner.
C'est vrai.
On n'a pas besoin de le dire aux Maple Leafs,
ils savent. Sont au courant, je pense.
Le bilan de fin de saison de Jeff Gorton. Il nous a expliqué qu'il avait eu trop de blessés cette année pour avoir une bonne saison.
Ah ouais.
C'est très facile à dire. Le problème du Canadien, c'est comme un Tim Hortons. Plein de jeunes qui traînent la patte. Le problème.
Ils font des erreurs dans tes commandes aussi.
Le problème des Canadiens, le problème des Canadiens, c'est le même problème que n'importe quel business partout. Une pénurie d'employés. Pour finir, je regardais les Islanders contre les Hurricanes et j'ai vu Lou Lamoriello. Lou Lamoriello, il va avoir 82 ans cette année. Quand même, il est DG de la NHL à 82 ans. Mais pourquoi pas? Joe Biden est président des États-Unis et il a 81 ans. Il se représente pour un autre mandat de 4 ans. Quelle est la recette de leur succès? Mais bien sûr!
Une petite vitamine pour embarquer.
Oui, yes. Bonsoir à tous.
Santé patate. Merci beaucoup de ton passage.
Yes, sir.
Alors,
on a quelqu'un qui nous a posé une question, puis wow. Je trouve ça quand même. Oh, bon, attends une minute.
Wow.
Qu'est-ce que ça a tourné? On a quelqu'un qui nous a posé une question, puis c'est pour nous, en fait, la question. Donc, il nous demandait si la finale Gatineau contre Sherbrooke, quel élément attaque, défense, gardien fera gagner leur équipe?
Oh. Et je ferai du marketing de moi-même en disant à Frédéric, reste à l'antenne Frédéric, on va en parler très bientôt sur les ondes de À la coupe.
En effet, on va en reparler de la finale en temps et lieu. Alors Frédéric, c'est un rendez-vous et puis c'est à tous les jeudis soirs avec À la coupe. Un très grand merci à vous d'avoir été là ce soir. On continue à suivre les séries éliminatoires qui vont commencer. Le carré d'as du côté de la LHMQ qui va débuter. C'est quand ça commence?
Oh yeah!
C'est demain?
Demain soir! En direct de Québec et de Sherbrooke. Oh. Non, d'Halifax, si je ne me trompe pas.
OK.
Oui, Halifax. Mais Halifax commence samedi.
Donc, demain soir, en direct du centre vide au tronc, qui sera plein pour l'occasion.
Ouais, ben, d'accord. Est-ce qu'ils rouvrent toutes les estrades?
On est à ouvrir la section 300, là, donc c'est ceux-là là, qui sont... T'es proche du plafond, t'as regardé un match comme ça. Là. Ça va être très cool à Québec demain. Là. Si vous êtes des partisans des remparts, vous voulez voir du maudit bon hockey junior, là. Demain, ça c'est. Manquez pas ça.
All right, fait qu'on continue à suivre ça. Un grand merci, PO, d'avoir été là. On se revoit très prochainement pour. Il y avait quelque chose de prévu prochainement, mais je ne me rappelle plus c'est quoi. Fait que, bref, on se revoit.
Il y a toutes sortes d'affaires. Je serai là.
Je suis sûr que tu es censé être là, mais je ne me rappelle pas c'est quoi. OK, ben, on se revient à bientôt. Et puis, Gab, on continue à lire tes textes sur le alacoupe.ca, puisque toi, tu suis activement les séries dans la LHMQ.
Oui.
Alors, c'est un rendez-vous. Et puis, ben, je te souhaite une très belle fin de soirée. Un grand merci d'avoir été là, ma chère.
Bonne soirée.
Marché. Et pour vous à la maison, je vous rappelle que cet épisode-là va être disponible en rediffusion cette fin de semaine, que ce soit sur YouTube ou Spotify. Je vous invite à nous suivre sur nos différentes plateformes puisqu'on est disponible sur YouTube, Spotify, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, toujours au nom de À la coupe. Également, tous les mardis midi, on a la notif des sportifs animée par Loric Salva. Il fait une revue de l'actualité hockey. Alors, je vous dis un grand merci d'avoir été là ce soir et je vous souhaite une belle fin de soirée. N'oubliez pas que les séries éliminatoires continuent au niveau de la LNH ainsi que de la LHGMQ. Alors, c'est à suivre. On se revoit bientôt. Bye bye. We'll be right back.